Frances Trollope, La veuve Barnabé, tome second. Chapitre premier. Le major fait à Baz une visite qui amène d'importants résultats. Une sympathie entre la veuve et lui. L'échange n'est pas le vol. Compliment d'adieu. En dehors de ce qui concerne Mistress Barnabé, ce récit n'a rien à faire avec les aventures du major Allen. En conséquence, nous n'avons pas à nous occuper de ce qu'il avait attiré à Bath. Il nous faut seulement relater une conversation de 10 minutes que le hasard lui fit avoir avec un membre de la société où il était allé passer la soirée le jour de son arrivée. Parmi tous les hommes d'âges différents, qui d'habitude se trouvent réunis partout où ceux qui vivent de leur habileté ont quelque chance de réussite, il y avait ce jour-là un jeune homme qui venait de manifester depuis peu son désir de faire partie de ce cercle. Le major Allen ne l'avait encore jamais vu, mais l'ayant entendu citer comme un très bon garçon qui était appelé à lui faire honneur, il ne se fit aucun scrupule de parler en toute liberté devant lui. La chose la plus intéressante qu'il eut à raconter depuis leur dernière réunion était l'histoire de son engagement avec la veuve Barnabé. Il se plaisait à la dépeindre comme une très belle femme, folle de lui et possédant, aussi bien en argent qu'en terre, une noble fortune. Le Nestor de la compagnie lui demanda avec un empressement tout amical s'il avait pris soin de s'assurer de ce qu'était cette belle fortune, parce qu'il n'était pas rare que les belles veuves se fissent passer pour plus riches qu'elles n'étaient réellement. « Merci mille fois, ô le plus sage des sorciers !» répondit gaiement le major. « L'âge n'a pas encore éclairé ma éclairci ma chevelure flottante, et je ne suis plus un blanc-bec, ni un homme auquel on bande les yeux. D'abord, la dame est la belle-sœur du vieux Peters, l'un des plus riches mangeurs de tortues de la ville, et c'est par une des filles de ce dernier que j'ai appris le véritable état des affaires de la veuve. Autorité sur laquelle on peut compter, car bien que les Peters la reçoivent comme une sœur, il est parfaitement évident qu'ils ne sont nullement enchantés d'elle. Par le fait, ce sont des gens assez collémontés que les Peters, tandis que ma veuve est aussi gaie qu'une alouette. « Est-elle de Bristol ?» demanda quelqu'un de la société. « Non, elle est du Devonshire, » fut la réponse. « Elle habitait le château de Silverton. » « Silverton, dans le Devonshire, » dit le jeune étranger. « Puis-je vous demander le nom de la dame, monsieur ?»« Son nom est Barnabé, » répondit légèrement le major Allen. « Se pourrait-il que vous eussiez entendu parler d'elle ?»« La veuve Barnabé de Silverton ?»« Oh, mais certainement !» Ah, c'est une bien belle femme, personne ne le contestera. C'est la veuve de notre pharmacien. La veuve d'un pharmacien? Oh, ce n'est pas cela du tout, monsieur. Vous vous méprenez complètement, reprit le major. Connaîtriez-vous la propriété appelée Silverton Park? Je n'ai jamais entendu parler de ce domaine, monsieur, mais je connais assez bien Silverton, dit le jeune homme. Je connais la maison de Mistress Barnabé, ou plutôt celle qui a été à elle, aussi bien que je connais la maison de mon père, qui d'ailleurs n'en est pas très éloignée, et je connais aussi la boutique, avec la fenêtre cintrée en saillie, qui en fait partie. C'est un immeuble fort décent. L'inquiétude gagna le major Allen. Il désirait bien en apprendre davantage, mais cette conversation en public ne lui allait pas. Il interrompit donc aussitôt et s'arrangea de façon à déjeuner avec sa nouvelle connaissance le lendemain matin. Avant que leur thé et leur rôti beurré eussent été entièrement avalés, non seulement le major Allen était complètement désenchanté à l'endroit du domaine de Silverton et des 4 splendides pommelés, mais il était parfaitement au courant de l'habileté avec laquelle son enchanteresse savait faire monter les comptes des fournisseurs avant son mariage. Cette dernière partie du discours de son interlocuteur acheva si bien d'éteindre la passion du major qu'il ne s'informa seulement pas de l'état actuel des finances de la veuve. Il s'était senti si près du bord d'un effrayant précipice qu'il se jetait dans la direction opposée avec une hâte qui ne lui permettait pas de se demander s'il n'y aurait pas eu un autre moyen de descendre au fond sans y rouler. Du reste, notre major avait une telle foi dans la puissance de sa belle taille, de son élégante tournure, de ses grands yeux et de son collier grec, qu'il est permis de douter qu'il se fût contenté du bien modeste de la veuve du pharmacien. Pourtant, il avait déjà échoué plus d'une fois, et cela toujours après que l'objet charmant, cause de son martyre, lui avait laissé croire qu'il était adoré. Malgré tout cela, la bonne opinion qu'il avait de lui-même n'en avait été nullement diminuée et n'était nullement en danger de l'être tant qu'il ne découvrirait pas un seul poil gris dans ses luxuriants favoris. Ce fut donc en appréciant toujours davantage sa propre valeur et en dépréciant fort celle de la veuve qu'il quitta Bath, bouillant de rage à la pensée de la déception qu'on avait voulu lui infliger. Il arriva à Clifton, bien déterminé à se confier en son adresse pour obtenir une restitution pacifique de sa promesse de mariage. Car pour rien au monde, il n'aurait voulu pousser sa Junon à prendre telle mesure qui pût attirer l'attention du public, tribunal devant lequel il n'avait aucune envie de paraître. L'état d'esprit de Mistress Barnaby au sujet de cette même promesse de mariage ayant déjà été décrit, on peut comprendre que lorsque le major Allen fit sa visite à Sion Row le lendemain matin, la sympathie qui existait entre lui et la veuve était beaucoup plus grande que personne n'aurait pu se l'imaginer. Au reste, il entrait dans la tactique de chacun de s'aborder avec toute l'apparence de la plus chaude tendresse, et quand il entra, ayant sur les lèvres le sourire qui avait si souvent réjoui le cœur passionné de la belle veuve, ce fut d'un air si charmant qu'elle lui tendit la main, que le gentleman abusé trembla en pensant à la difficulté de la tâche qu'il avait devant lui. Le cœur de Mistress Barnaby n'était pas à son aise non plus. Qui aurait pu douter de la sincérité de l'ardente passion avec laquelle il lui serrait la main? Qui aurait pu croire que, tandis que ses yeux l'enveloppaient en silence d'un regard indiquant des sentiments trop violents pour être exprimés, il n'était préoccupé que d'une pensée: comment s'y prendre pour se débarrasser d'elle à jamais? On préluda à la conversation par quelques questions affectueuses, soutenues avec aplomb, sur le temps de l'absence, et enfin le major commença. « Oui, ma douce amie, ma santé a été très bonne, mais on ne saurait concevoir toutes les tortures qui viennent assiéger un homme véritablement épris. » Pendant ce temps, la veuve lui répondait mentalement: « Peut-être aviez-vous la crainte que je ne visse votre ami maintré, attaché au pilori et me regardant à travers les fenêtres de la prison du comté. » Mais tout haut, elle dit avec un sourire un peu forcé: « Quelle torture, major !»« J'ai presque peur de vous les dire, répliqua-t-il. Vous allez me trouver si faible, si capricieux. » Ce mot de capricieux résonna agréablement aux oreilles de la veuve. Il semblait faire allusion à quelque changement, à quelque infidélité qui pourrait bien rendre sa tâche plus facile, et reprenant une apparence de gaieté, elle dit: « Eh bien, même quand il en serait ainsi, parlez sans l'ombre d'une réserve, major Allen, car il n'y a rien que j'admire autant que la sincérité. » De la sincérité, murmura par lui le coureur de fortune, à demi prise au piège: « Que le ciel confonde sa sincérité !» Et tout haut, il répondit: « Voulez-vous me promettre, cher ami, de me pardonner si je vous avoue une folie provoquée par ma passion ?» Mistress Barnaby trembla. Elle se sentit comme saisie par des crampons de fer qui rendaient toute fuite impossible. « Mais vraiment, dit-elle, je crois que les folies passionnées sont des plaisanteries trop jeunes pour nous, major. » Cela serait admissible pour Agnès, peut-être, mais entre vous et moi, nous nous connaissons trop. Si je pouvais seulement me faire chercher querelle, pensait-elle, ce serait encore ce qu'il y aurait de mieux. Si je pouvais la cajoler une fois encore pour arriver à mes fins, pensait-il, l'affaire serait faite en un rien de temps. Une beauté comme la vôtre n'a pas d'âge, s'écria-t-il. Elle est immortelle comme la passion qu'elle inspire. Et quand elle est réunie à un cœur, à un caractère tel que ceux que vous possédez, elle devient... Je vous affirme, major, dit la veuve en l'interrompant un peu aigrement, que vous auriez tort de compter sur la bonté de mon caractère. Il n'a jamais été singulièrement bon, et je ne saurais dire que je trouve qu'il devienne meilleur. Oh, ne dites pas cela, car je vais le mettre à l'épreuve à l'instant même. Je désirerais que vous... Je vous en supplie, major, ne me demandez rien qui soit en dehors d'une obligeance ordinaire, car à vous parler franc, je ne serai pas d'humeur à vous l'accorder. Il m'est revenu de plusieurs côtés, major Allen, depuis que vous m'avez quitté d'une façon si soudaine, que très vraisemblablement, il y avait une femme dans l'affaire et que vous m'avez forcé à vous faire une promesse de mariage tout exprès pour aller en rire avec elle en la lui montrant. « Enfer et furie !» grommela le major in petto. « Elle s'attachera à moi comme une sangsue !»« Oh, n'allez pas rêver une pareille infamie » s'écria-t-il. « C'est précisément au sujet de cette chère promesse que je désirais vous parler, ma douce Martha. Il me semble que cette promesse... »« Voulez-vous que je vous dise, major Allen ?» s'écria la veuve avec véhémence. « Si vous ne me faites pas voir cette promesse à l'instant même... » Rien au monde ne pourra me persuader que vous ne l'avez pas donnée, en manière de plaisanterie, à une autre femme. Grand Dieu, reprit-il, quel moment avez-vous choisi pour exprimer un doute aussi cruel? J'étais justement sur le point de vous dire que je trouvais qu'une pareille promesse était indigne d'un amour comme le nôtre, aussi pur, aussi parfait, et que, par conséquent, si vous vouliez combler mon désir le plus ardent, vous consentiriez à ce que nous nous rendissions mutuellement nos promesses. » Le major était bien réellement dans le plus violent état de perturbation en prononçant ces paroles, car il craignait que la veuve, jalouse et passionnée, ne mît une ténacité telle à vouloir garder le gage qu'elle avait reçu de lui, que toute son adresse n'en put venir à bout. Mais il n'eut pas plus tôt parlé qu'un sourire trahissant d'inexprimables délices venait bannir le froncement de sourcils dont elle avait paré ses traits, et elle murmura avec une satisfaction des plus vraies. « Si telle est réellement votre intention, major Allen, vous comprenez que je ne puis soupçonner plus longtemps que vous ayez donné ma promesse à une autre personne. »« Assurément non, ô le plus beau des anges !» s'écria l'amant ravi. « Ainsi donc, « rendons-nous ces liens de papier et restons attachés seulement par... » La dame étendait la main pour saisir le document que le major avait déjà tiré de son portefeuille. Mais céder cet objet, quoiqu'il n'eût aucune envie de le garder, n'était pas ce qui lui tenait le plus à cœur. Le maintenant donc au-dessus de sa tête, tout en badinant, il dit « Chère belle, que l'un de nous ne semble pas plus empressé que l'autre dans cet acte de confiance. » « D'une main, rendez-moi ma promesse, de l'autre, vous reprendrez la vôtre. »« Eh bien donc, » dit Mistress Barnaby, étendant avec empressement ses deux mains, afin de donner et prendre tout à la fois. « Eh bien donc, » répliqua joyeusement le major en imitant son mouvement. Et l'instant d'après, chacun saisissait le papier que tenait l'autre, avec l'avidité du joueur qui, au whist en 5 points, ayant déjà l'as, se jette sur le roi. À présent, Mistress Barnaby, je vous souhaite bien le bonjour, dit le gentleman en saluant très bas, tandis qu'il réduisait le petit document à l'état d'atome. Depuis que j'ai eu le plaisir de vous voir, j'ai été assez heureux pour découvrir l'endroit précis où est situé votre magnifique domaine de Silverton Park, ainsi que la descendance exacte de vos splendides pommelés. En entendant ceci, la veuve perdit son aplomb un instant. Mais ce ne fut pas pour longtemps. Elle aussi avait fait de son mieux pour réduire à néant le précieux papier. Se levant alors avec majesté, elle en fit voler toutes les parcelles sur le plancher en disant d'un ton pour le moins aussi triomphant que celui du major « Et moi, major Allen, que ça soit ainsi que vous vous appelez ou non, depuis la dernière fois que j'ai eu le bonheur de vous voir, j'ai joui d'un spectacle bien édifiant. J'ai vu votre ami, le capitaine Maintry, autrement dit Joe Perham, je crois, entre les mains de la justice pour avoir aidé votre fidèle serviteur Williams à forcer ma caisse et à me dévaliser. Dans le cas où la circonstance vous serait restée inconnue, je crains de vous causer une vive déception en vous annonçant que mon argent, ainsi que mon argenterie, ont été retrouvés. Il est possible, en effet, qu'il y ait une légère différence, différence toute de convention, entre le domaine appelé Silverton Park et un immeuble fort confortable à Silverton. Mais de nous deux, je serais assez porté à croire, monsieur, que c'est moi qui ai le plus profité des événements de la matinée. Adieu, et si vous voulez suivre mon conseil, ne restez pas davantage à Clifton. Je sens qu'il ne serait pas impossible que je fusse entraîné à insinuer au magistrat que vous arrêter et vous interroger comme complice en cette affaire pourrait bien faciliter l'œuvre de la justice. » Bien décidément, c'était la dame qui l'emportait, comme cela doit toujours être. Le major semblait fort abattu. On eût dit, en admettant qu'il fût enclin à la poésie, qu'il avait envie de s'écrier avec Comus : « Elle n'invente rien, je sens que je puis avoir peur. » Aussi, sans tenter de ressaisir la palme de la victoire, il se dirigea vers l'escalier. J'ajouterai qu'il y a plusieurs années qu'on a entendu parler de lui aux alentours de Silverton.